Vous écoutez, on lit pour vous.
Pleurer en public. Un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 21 janvier 2026 dans la presse. Le meilleur endroit où pleurer à Montréal. C'est le titre du forum Reddit dans lequel plus d'une centaine de personnes suggèrent des lieux publics où laisser couler ses larmes. Celle qui a lancé l'appel anonyme sur le réseau social a écrit, si je me permets une traduction de l'anglais au français, « Je cherche un endroit calme et pittoresque à Montréal où je peux être seul et pleurer en paix. L'emplacement est vraiment important et il doit être magnifique. » Les gens ont répondu avec autant de créativité que de sensibilité, « Le Mont-Royal, que ce soit au Belvédère ou au cimetière, le parc nature du Cap-Saint-Jacques, quelqu'un y a écrit une lettre pour un ami qui allait recevoir l'aide médicale à mourir et recommande chaudement l'endroit. Une longue liste de parcs, en précisant parfois même quel banc invite à la mélancolie. Des bibliothèques municipales, une salle de cinéma, etc. » Certains utilisateurs de la plateforme s'inquiètent pour la personne qui a lancé la question. Elle va bien. Elle a juste besoin de laisser sortir le trop-plein. D'autres la rassurent. Tout finit par passer. Plusieurs se confient aussi. Quelqu'un raconte avoir pleuré dans le stationnement d'un maxi. Cet individu est ravi de découvrir des endroits plus jolis pour vivre un éventuel relâchement nerveux. Évidemment, quelques personnes trouvent la demande incongrue et répondent qu'il vaut mieux pleurer dans le secret de sa douche. Pourquoi vouloir faire ça en public? La question se pose. Les rares fois où j'ai connu un trop-plein devant plusieurs témoins, c'était lors d'événements tristes, que ce soit des funérailles ou la projection du film « Marley et moi ». Faux. Je pleure aussi comme un bébé en applaudissant les marathoniens chaque été. Puis, si j'y pense bien, j'ai également pleuré au restaurant dans des moments d'intimité entre amis. Des moments si purs qu'ils nous font oublier les gens qui soupent là, juste à côté. Cela dit, je n'ai jamais consciemment prévu sortir pleurer. Mais pourquoi pas? Tant qu'à laisser filer notre tristesse, pourquoi ne pas le faire au cœur d'un paysage enveloppant? Ou même entouré de passants. De toute façon, les émotions sont bien moins privées qu'on ne le pense. Comme d'autres types de conduite, les émotions sont des phénomènes publics, croit Patricia Pepperman. Elles sont un outil de communication. Dans Les émotions et l'espace public, la sociologue française écrit « Distincte et pourtant indissociable de la parole et de l'action », les émotions seraient une façon d'apparaître aux autres qui n'est pas simplement celle d'autres objets vivants ou inanimés, mais une manifestation spécifique d'humanité, selon les termes de Hannah Arendt. Je n'irai pas jusqu'à dire que la politicologue américaine pensait aux gens qui pleurent dans le stationnement d'un maxi quand elle a écrit « Conditions de l'homme moderne », mais il faut reconnaître qu'afficher nos émotions dans un tel lieu, c'est effectivement une manière de se dévoiler aux autres. Vulnérable. À fleur de peau. Humain. Qui n'a jamais combattu le bâton? Chapeau bas à celles et ceux qui arrivent à mettre la pudeur de côté quand leur cœur en a besoin. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe sur ce fil Reddit. Le forum en ligne n'est pas un lieu physique, mais il est un espace public. Les témoignages que je lis sont des échanges intimes livrés de manière à apaiser les autres. Une manifestation spécifique d'humanité, oui. Ce n'est pas anodin que ce soit sur Reddit que cette petite bulle de bonté survienne, cela dit. Dans le numéro d'avril dernier du magazine The Atlantic, la journaliste Adrienne Lafrance plaide qu'il s'agit probablement de la meilleure plateforme sur le web. En 2005, Steve Hoffman et Alexis Ohanian ont créé Reddit pour que les internautes y publient des mèmes, des photos, des réflexions. Ce qu'ils voulaient bien, au fond. Ce qui différencie ce réseau des autres, c'est que les utilisateurs peuvent voter pour faire monter ou descendre un commentaire sur le fil de chaque discussion ou subreddit. Le meilleur, comme perçu par la communauté, se démarque donc du pire. Dans l'article « The Nicest Swamp on the Internet », Adrienne Lafrance souligne que lors de ses 10 premières années d'existence, Reddit n'était pas un lieu particulièrement fréquentable. Or, la plateforme a récemment connu un élan de popularité qui l'a éloigné des propos ignobles. Surtout, ses modérateurs, des utilisateurs bénévoles, ont pris des mesures pour mieux encadrer les discussions tenues sur le forum. Aujourd'hui, on y trouve plus de 100 000 communautés actives rassemblées autour de champs d'intérêt, allant de la science à la fiction, en passant par les photos d'oiseaux qui semblent s'être divorcées au moins deux fois. Il y en a pour tout le monde, vraiment. Même pour les personnes qui cherchent le meilleur endroit où pleurer en public. Je ne le pense pas chaque jour, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire... Vive l'Internet! C'était « Pleurer en public », un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 21 janvier 2026 dans La Presse.
Réinventer la culture pour les jeunes, un texte de Brian Perrault, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse. L'auteur de la célèbre série de romans jeunesse Amos d'Aragon propose des moyens de lutter contre les tendances inquiétantes constatées à propos de la consommation de culture québécoise. Faire aimer la culture québécoise aux jeunes générations n'est pas un défi, c'est une urgence. Une urgence pour préserver ce qui nous définit, pour éveiller la fierté et pour transformer notre patrimoine en une source d'inspiration toujours renouvelée. Mais comment rendre accessible, captivante et significative, une culture aussi riche que complexe à des jeunes dont l'univers est façonné par le numérique, la mondialisation et des défis sociaux sans précédent? À mes yeux, la réponse ne se trouve ni dans la nostalgie, ni dans la répétition, mais bien dans l'audace et la réinvention. Voici quelques pistes, aussi modestes soient-elles, pour métamorphoser ce défi en une aventure collective, créative et rassembleuse. La culture doit aller à leur rencontre. Les réseaux sociaux, les applications mobiles et les plateformes de diffusion en continu ne sont pas les ennemis de la culture, ils en sont les nouveaux vecteurs. Pourquoi ne pas imaginer des capsules TikTok où des influenceurs racontent l'histoire du Québec avec passion? Ou des jeux mobiles qui invitent à découvrir nos légendes urbaines en explorant virtuellement nos rues? La culture, pour séduire les jeunes, se doit d'être brève, percutante et interactive, une expérience qui s'adapte à leur rythme et à leur code. Les jeunes ne sont pas des spectateurs passifs, mais des créateurs en devenir. Pour qu'ils s'approprient notre culture, il faut leur en confier les rênes. Organisons des ateliers où ils pourront réinventer des chansons traditionnelles, écrire des légendes contemporaines ou créer des œuvres inspirées de notre patrimoine. Et si nous lancions des concours de mèmes célébrant nos expressions typiques ou des défis culinaires mettant en valeur nos produits locaux? Relier la culture à leur passion. Les jeunes d'aujourd'hui sont profondément engagés, que ce soit pour la justice sociale ou la protection de l'environnement. Montrons-leur comment la culture québécoise peut être un levier pour le changement. Mettons en lumière des artistes autochtones qui défendent la nature ou transformons des événements en espaces où le slam, le graffiti ou le théâtre deviennent des outils d'expression et de mobilisation. La culture n'est pas un musée figé. C'est un mouvement en perpétuelle évolution, un dialogue entre hier et aujourd'hui. Libérer la culture des cadres traditionnels. Les jeunes recherchent des expériences immersives, décontractées et inattendues. Pourquoi ne pas organiser des jeux d'évasion inspirés de notre histoire, des soirées contes dans des cafés branchés ou des festivals où la musique traditionnelle se marie à l'électro? La culture doit être accessible, ludique et surprenante, une invitation à l'émerveillement, loin des conventions. Faire de l'école un laboratoire culturel. Intégrons des projets audacieux dans les programmes scolaires. Résidences d'artistes, création de fresques murales collectives, spectacles montés par les élèves. Facilitons aussi l'accès aux musées, au théâtre et aux concerts grâce à des tarifs abordables et des transports organisés. Mais surtout, créons des rencontres entre les jeunes et des artistes québécois pour qu'ils découvrent que la culture est un métier vibrant, une voie pleine de possibilités. Mettre en avant des figures inspirantes. Les jeunes ont besoin de modèles qui leur parlent, qui reflètent leur réalité et leurs aspirations. Promouvons nos artistes contemporains, musiciens, cinéastes, humoristes, écrivains, dont les œuvres résonnent avec leur époque. Construire des ponts entre les générations. Encourageons les jeunes à recueillir les témoignages des aînés, à collecter des recettes familiales ou des histoires de quartier. Formons parmi eux des ambassadeurs culturels capables de transmettre ce patrimoine avec enthousiasme. La culture n'est pas une frontière, c'est un pont qui relie les époques et les communautés. Dédramatiser par l'humour. Jouons avec les clichés à travers des capsules humoristiques comme « Le Québec expliqué aux extraterrestres » ou stimulons la création de mèmes qui célèbrent notre identité avec légèreté. L'humour a ce pouvoir unique de rendre la culture proche, humaine et désacralisée. Célébrer notre langue dans toute sa splendeur. Organisons des ateliers pour explorer la richesse du français québécois, avec ses expressions savoureuses et son évolution constante. Lançons des concours de slam ou de rap en joual pour que notre langue devienne une source de fierté et de créativité. Le québécois n'est pas un patois. C'est une langue vivante, un trésor à faire rayonner. Rendre la culture instagrammable. Créons des installations artistiques qui captent l'imagination, murales interactives, sculptures éphémères et qui deviennent des lieux de rassemblement. Lançons des défis sur les réseaux sociaux comme hashtag Mon Québec à moi pour que chaque jeune puisse faire partager sa vision de notre culture. Parce que ce qui se voit se vit et se transmet. En définitive, la culture québécoise ne doit pas être un héritage poussiéreux, mais une aventure collective, une histoire que nous écrivons ensemble. Pour y parvenir, écoutons les jeunes, donnons-leur la parole et osons innover. Car c'est en la rendant vivante, interactive et profondément pertinente que nous leur donnerons l'envie de la porter, de la chérir et de la transmettre à leur tour. La culture n'appartient pas au passé, elle se réinvente chaque jour, et c'est à nous d'en être les artisans. C'était « Comment réinventer la culture pour les jeunes », un texte de Brian Perrault, paru le 15 septembre 2025 dans La Presse.
Ces bulles invisibles qui propagent le cancer et pourraient aider à le stopper. Un texte de Vahé Nerguizian, paru le 1er décembre 2025 dans La Conversation. Des bulles invisibles transportent le cancer d'un organe à l'autre. Comprendre ces messagères microscopiques pourrait changer la lutte contre les métastases. Empêcher un cancer de se propager dans le corps. Voilà le défi que s'est donné notre équipe au département de génie électrique de l'École de technologie supérieure, ETS. En collaboration avec la professeure Julia Burnier et des spécialistes en biologie de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, nous cherchons à comprendre comment les cancers se transforment en métastases, c'est-à-dire comment ils envahissent d'autres organes. Depuis environ 8 ans, mon équipe se penche sur les nanoparticules lipidiques qui font une taille d'à peine une centaine de nanomètres et qui sont donc invisibles à l'œil nu. Nous cherchons d'abord à comprendre le chemin de la métastase. Ensuite, nous trouvons des façons différentes d'injecter les médicaments dans le corps. Les nanoparticules lipidiques, comme les liposomes, se distinguent des approches classiques. Elles permettent de délivrer les médicaments directement dans les cellules tumorales, ce qui accroît leur efficacité et réduit la toxicité comparée aux chimiothérapies conventionnelles. Des chercheurs ont démontré que les liposomes ciblent mieux les tumeurs et diminuent les effets secondaires, tandis que d'autres ont observé que ces nanomédicaments améliorent la pénétration et la spécificité du traitement, notamment face aux métastases. Ces résultats confirment que les nanomédicaments peuvent rendre les traitements du cancer plus ciblés, plus efficaces et mieux tolérés. De minuscules particules responsables de la propagation. Chaque cellule de notre corps, saine ou cancéreuse, libère de minuscules particules appelées vésicules extracellulaires. Ces petites bulles, faites de lipides et de protéines, transportent aussi de l'information génétique. Lorsqu'une cellule cancéreuse libère dans le sang ses vésicules et que ces dernières sont transférées à une cellule saine, elle peut en modifier l'ADN et la transformer à son tour en cellule cancéreuse. C'est ainsi que le cancer se propage vers d'autres organes, comme le foie. Ce mécanisme est à la base des métastases. Le problème, c'est qu'il est long et difficile d'extraire et d'étudier ces vésicules naturelles. Pour accélérer la recherche, mon équipe produit donc des copies artificielles appelées liposomes grâce à de petits dispositifs, des micro-mélangeurs. En mélangeant différentes solutions, des lipides, des protéines, de l'eau et de l'éthanol, notre équipe de recherche crée des particules ressemblant aux vésicules naturelles. Notre défi consiste à comprendre quels sont les lipides et les protéines qui sont contenus dans les vésicules extracellulaires pour produire des liposomes. Ces liposomes sont ensuite injectés dans des cellules cancéreuses hépatiques pour voir comment elles réagissent. Plus les cellules retiennent ces particules, plus cela prouve que les copies imitent bien la réalité. Dans une expérience type, les liposomes sont fabriqués avec des paramètres précis afin de reproduire la taille et la charge des vésicules extracellulaires. Ils sont également rendus visibles en les colorant avec un marqueur fluorescent. Ces liposomes sont ensuite incubés avec des cellules cancéreuses cultivées dans notre laboratoire. Il est ainsi possible de filmer et de mesurer, en temps réel et sans perturber les cellules, comment et à quelle vitesse les liposomes sont absorbés et exprimés par les cellules cancéreuses. Nos résultats montrent que plus les liposomes ressemblent aux vésicules naturelles en taille et en charge, plus ils sont efficacement absorbés. Cela permet de voir comment leur composition chimique et physique influence leur absorption par les cellules et leur rôle possible dans le développement des tumeurs. Observer le comportement des liposomes. Notre objectif est de pouvoir comprendre comment ces vésicules extracellulaires sont transportées vers les cellules du foie pour y créer des métastases. Notre principal défi est de faire en sorte que ces liposomes puissent imiter vraiment les vésicules extracellulaires. Nous obtenons actuellement un taux d'efficacité de 50 % pour l'encapsulation des protéines. Nous visons à le faire grimper à 90 %. Nous espérons ainsi expliquer la façon dont sont formées les métastases afin de les bloquer. Une fois la technique peaufinée, notre équipe mènera des tests sur les rats. À long terme, ces travaux pourraient changer la donne pour de nombreux patients en empêchant la formation de métastases et en augmentant leurs chances de survie. Notre but, comprendre et bloquer la formation des métastases. Vers de nouveaux traitements. Notre équipe ne cherche pas seulement à comprendre le processus, mais aussi à développer de nouvelles armes contre le cancer. L'idée est d'utiliser ces liposomes comme de minuscules navettes capables de transporter des médicaments directement vers les cellules cancéreuses. Les diamètres des liposomes diffèrent en fonction de l'organe cancéreux à traiter. Par conséquent, il est très important de bien caractériser et comprendre les propriétés de ces liposomes. Par exemple, des chercheurs testent actuellement l'encapsulation de curcuma, une molécule étudiée pour ses propriétés anticancéreuses. Notre équipe fait de même pour observer comment les cellules cancéreuses réagissent à ces liposomes. Le curcuma, et plus précisément la curcumine qu'il contient, aide à combattre le cancer en ralentissant la croissance des cellules tumorales et en favorisant leur destruction par le corps. Plusieurs études confirment ces effets anti-inflammatoires et antioxydants, ce qui peut renforcer l'action des traitements contre le cancer. Grâce à l'encapsulation dans des liposomes, nous améliorons la capacité du curcuma à atteindre et cibler les cellules malades. Outre cette molécule, d'autres molécules comme le paclitaxel sont déjà utilisées dans des traitements anticancéreux sous forme liposomale. Le paclitaxel encapsulé améliore notamment la délivrance du médicament et sa tolérance. Il existe aussi des stratégies innovantes utilisant des liposomes pour transporter de petits morceaux d'ADN ou des anticorps qui vont agir comme des messagers aidant le corps à mieux détecter et combattre les cellules malades. Ces approches sont validées par plusieurs études scientifiques et sont déjà utilisées dans certains traitements du cancer, avec de nouveaux progrès chaque année pour améliorer leur efficacité et leur sécurité. En reproduisant les vésicules naturelles du corps émanant des cellules cancéreuses par des liposomes, notre équipe espère percer le secret de la propagation du cancer et déterminer les approches efficaces pour la bloquer. Nos recherches ouvrent la voie à des traitements plus ciblés, capables d'empêcher la formation des métastases et d'améliorer les chances de survie des patients. C'était ces bulles invisibles qui propagent le cancer et pourraient aider à le stopper. Un texte de Va et Nerguizian paru le 1er décembre 2025 dans La Conversation.
Dépression et risques suicidaires, ce que révèle la recherche. Un texte commandité paru le 10 novembre 2025 dans La Presse. La dépression constitue un enjeu majeur de santé publique. En plus d'affecter profondément la qualité de vie, elle représente le principal facteur de risque associé au suicide. Mieux comprendre la maladie s'avère donc essentiel afin de prévenir les cas de suicide et de sauver des vies. Caractérisée par une humeur triste ou une perte de plaisir ou d'intérêt soutenu pendant plusieurs semaines, le trouble dépressif est courant, mais loin d'être anodin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est la première cause de morbidité et d'incapacité dans le monde. Cette maladie mentale se décline toutefois en différents degrés, allant de légère à sévère, en fonction du nombre et de la gravité des symptômes et de leur impact sur le fonctionnement de la personne touchée. Si la plupart des gens qui ont un trouble dépressif présentent une forme assez bénigne qui se traite facilement, un pourcentage d'individus souffrent cependant d'une forme sévère, marquée par une souffrance profonde qui perturbe grandement leur vie professionnelle, sociale et familiale, explique le psychiatre Gustavo Turecki, directeur scientifique et chef du département de psychiatrie de l'Institut Douglas et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les troubles dépressifs majeurs et le suicide. La dépression, principale cause de suicide. Chaque année, environ 4 500 personnes décèdent par suicide au Canada. Or, les données probantes démontrent que le trouble dépressif représente le facteur de risque le plus important de suicide. Avoir un diagnostic de dépression peut augmenter jusqu'à 7 fois le risque suicidaire en comparaison de la population générale. Et pour certaines formes très sévères, ce risque s'avère encore plus grand, indique le docteur Turecki. Repérer les idées suicidaires est donc une étape cruciale lorsqu'une personne souffre de dépression. Ces pensées ne mènent pas nécessairement à un passage à l'acte, mais elles sont importantes pour l'évaluation clinique du risque. Les personnes les plus vulnérables. Certains individus sont plus enclins de passer à l'acte que d'autres. Le risque varie notamment en fonction du sexe et de l'âge, parmi d'autres facteurs. Le nombre de décès par suicide est de 3 à 4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes au Canada, même si ces dernières font davantage de tentatives, souligne le psychiatre du Centre de recherche Douglas. Par ailleurs, les personnes les plus touchées sont souvent d'âge moyen, c'est-à-dire dans la quarantaine et la cinquantaine. Cela dit, le suicide frappe aussi les aînés et les jeunes de 15 à 34 ans. Dans cette tranche d'âge, il représente la 2e cause de mortalité au pays. Parmi les gens décédés par suicide, la dépression est présente dans 50% des cas chez les plus jeunes et dans presque 90% des cas chez les aînés, rappelle le Dr Gustavo Turecki. L'importance de la recherche. En raison de son extrême complexité, le cerveau se révèle la dernière grande frontière de la médecine. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes présentant un trouble dépressif, assure le spécialiste. À l'Institut Douglas, le Dr Turecki et son équipe tentent donc de découvrir pourquoi certains patients dépressifs se suicident alors que d'autres, qui souffrent de la même maladie, ne le font pas. Ces projets de recherche ont notamment permis d'identifier des types spécifiques de cellules cérébrales affectées par la dépression. Cela nous donne une image beaucoup plus claire des cellules impliquées, ce qui peut ouvrir la voie à des traitements plus efficaces et à de meilleures mesures de prévention, affirme le psychiatre. Bien qu'une minorité de gens souffrant d'un trouble dépressif se suicide, chaque décès est un drame qui aurait potentiellement pu être évité, nous dit le Dr Gustavo Turecki. C'était « Dépression et risques suicidaires, ce que révèle la recherche ». Un texte commandité paru le 10 novembre 2025 dans La Presse.